je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin.
Eh bien, bonjour et bienvenue sur Radio Libertaire pour cette nouvelle émission Livre en lutte. Aujourd'hui, on est content d'accueillir Gérard Streff pour son livre La légende SKF, l'histoire d'une dignité ouvrière, donc l'histoire d'un conflit social dans l'usine SKF à Vitry, de 83 à 85. Et on accueille aussi Simon et Marion qui habitent également Ivry. Donc si jamais ils ont une question à poser à Gérard, eh ben, ils ne se gêneront pas. Donc Gérard Streff, bonjour.
Bonjour, bonjour et merci d'invitation.
Bonjour Simon, bonjour Marion.
Bonjour.
Donc auteur d'une soixantaine de livres, donc une vingtaine de polars, donc toujours ancrés dans l'histoire. Tu as commencé en 2000 dans la série Le Poulpe,
oui.
Par le KGB. C'est vrai qu'on aime beaucoup les mauvais jeux de mots dans la série Le Poulpe. Je crois qu'il y a quelques relents de la guerre d'Espagne dans ce livre.
Oui, absolument, absolument.
Tu as fait aussi une vingtaine de romans jeunesse et puis une vingtaine d'essais ou de biographies, entre autres sur Guy Moquet, La Libération de Paris, La Guerre d'Algérie, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Donc tu as été correspondant de presse à Moscou, ça a une importance pour ce livre. Et puis rédacteur en chef adjoint des magazines Regard et Révolution. Alors on peut lire que tu es cofondateur du prix Artemisia, qui soutient la BD féminine. Je crois surtout que tu as été membre du jury dans les débuts.
Oui, tout à fait.
Il faut préciser que tu es le mari de Chantal Montelier, donc une des trois cofondatrices. Chantal qui a été la toute première illustratrice femme de dessin politique.
Exact. Merci.
Et qui avait commencé dans le journal Combat syndicaliste, donc le journal de la CNT. Et en fait, je crois que c'est elle qui t'a amené à l'écriture.
Absolument, c'est elle qui m'a dit, allez, n'aie pas peur, passe à la fiction, parce que j'étais plutôt culture journaliste, le fait divers, etc. Et inventé, c'est elle qui m'y a encouragé, donc merci, merci mon épouse.
Et en fait, tu as commencé par les livres pour enfants.
Oui, les livres pour enfants, qui traitaient déjà de problèmes écologiques. Par exemple, un des premiers romans que j'ai fait à la Bibliothèque Verte traitait de la question de la mer d'Aral et de cette disparition de cette plus importante mer d'Asie centrale. Donc, c'était un thème qui m'avait beaucoup ému et j'avais eu envie d'écrire. Également sur le trafic des objets d'art, le trafic dans des grottes préhistoriques. Voilà, c'est ce genre de thème qui m'avait donné envie de raconter des histoires de jeunesse, pour la jeunesse.
Donc aujourd'hui, tu es là pour ton livre La légende SKF, l'histoire d'une lutte très longue, hein, 600 jours, qui a pu prendre des allures d'insurrection. Avec une violence assez impressionnante par les moyens employés de chaque côté de ces affrontements. C'est l'histoire d'une époque avec d'une part une mobilisation et des solidarités qu'on aurait peut-être du mal à retrouver aujourd'hui. Et puis d'autre part, on a un tableau de l'attitude des politiques, du patronat et de la police à l'époque. Et ça aussi, c'est assez impressionnant.
Oui, impressionnant, tu as raison. Et on est en 83-85, c'est-à-dire on est dans la grande phase de désindustrialisation, de délocalisation. Il y a eu la sidérurgie à la fin des années 70, et puis là c'est automobile, métallurgie. Et donc la grande usine SKF d'Ivry, qui à un moment compte 1000-2000 ouvriers, était déjà dans un relatif déclin. Et en 1983, le patronat, qui est un patronat suédois, des grands bourgeois suédois, mais avec également dans l'administration de l'usine des grands bourgeois français, ils décident de fermer l'usine. Voilà, on est en 83 et sans vergogne, ils disent on va fermer l'usine. Évidemment, grosse émotion, évidemment refus. Surtout que nous sommes à la deuxième année d'un gouvernement de gauche. Donc les ouvriers se disent, bon, ben, la gauche va pas laisser faire ça. Ils espèrent que l'inspection du travail en septembre va refuser cette fermeture. Manque de bol, l'inspection du travail qui finalement obéit aux ordres du gouvernement décide, de confirmer. Et là, c'est le clash. Donc, dès l'annonce par l'inspection du travail d'une fermeture, on est en septembre-octobre, les ouvriers se réunissent dans la cour et ils occupent. Et ils vont occuper pendant 2 ans, ce qui est quand même assez remarquable.
Alors apparemment, tu expliques, il y avait déjà eu des mouvements sociaux dans cette usine, en 36, en 68 aussi, pour obtenir la cinquième semaine de congés payés, et une augmentation, et un calcul de primes de licenciement. Et en fait, apparemment, ce qui motivait SKF, c'était que les ouvriers là-bas étaient peut-être plus combatifs qu'ailleurs.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi un règlement de compte politique dans la décision de ces patrons suédois. Entre parenthèses, depuis que j'ai écrit le livre, il m'arrive de lire des choses sur SKF et je me suis aperçu que SKF Suède, mais SKF International, a été une grosse entreprise de collaboration avec les nazis pendant la guerre. Les Suédois qui la jouent toujours un peu faux cul, ah non, nous on est neutralité, etc. C'est un pur mensonge. La SKF a été un gros producteur et collaborateur, voilà, c'est le mot, avec la structure nazie. Mais enfin, bref, si on en revient à SKF Ivry, oui, les gens d'Ivry ont une réputation de battants. Il y a un syndicat très majoritaire, CGT, très actif, et ils ont toujours été à la pointe des luttes. Et quelque part, il doit se dire dans l'administration suédoise, cela, il faut leur faire la peau. Hein. Et donc, il y a une volonté politique aussi dans cette fermeture, et pas seulement des soucis de rentabilité, de délocalisation, en l'occurrence en Espagne et en Italie. Voilà.
Alors, le 2 novembre, les ouvriers votent l'occupation de l'usine. Et tout de suite, il y a un collectif de 70 associations solidaires qui s'installent. Parce qu'en fait, si ça a pu durer aussi longtemps, c'est qu'il y a eu un énorme mouvement de solidarité.
Exactement. On va dire que cette lutte, pour moi, c'est une histoire d'amour entre une usine et une ville, enfin entre une population d'Ivry et puis évidemment des quelques vitriaux, etc. Mais c'est une histoire d'amour entre une ville et son usine, parce que cette usine fonctionne en fait depuis le début du siècle et dans chaque famille ouvrière d'Ivry, on a travaillé à SKF, ou on travaille encore à SKF, ou on se dit que les enfants travailleront à SKF. Donc il y a un lien organique très très fort, très très lointain. Et ce sentiment donc de fermeture de l'usine est ressenti en ville comme une véritable provocation. Donc tout de suite, solidarité, d'organisation, de prise en compte. On va nourrir les grévistes, on va soutenir les grévistes, on va rencontrer les grévistes. Et puis, moi, ce qui m'a étonné en lisant leur histoire, c'est que c'est une grève extrêmement, une occupation extrêmement active. C'est-à-dire que tous les, au moins une fois par mois, il y a une grosse initiative publique. Par exemple, ils vont prendre l'avion pour aller en Suède et rencontrer soit la direction suédoise, soit les ouvriers suédois, ou alors ils vont occuper une partie de la Seine au niveau du Val-de-Marne, ou ils vont occuper la Bastille, la tour de la Bastille, ou ils vont faire une manif vers le patronat, etc., etc. Donc il y a en permanence une activité publique importante qui permet aussi de garder le moral, si je puis dire. Et ce qui fait que ça va durer 2 ans. Et autre chose qui, moi, m'impressionne tout de suite, c'est que vous ne pouvez pas vivre pendant 2 ans dans une usine sans qu'il se crée, sans qu'il y ait un climat particulier, une espèce de communauté ouvrière singulière, parce que ces gens-là se retrouvent tous les jours, non pas pour travailler, mais enfin pour entretenir au moins les machines. Et puis, petit à petit, eh bien, on va se mettre à lire, on va se mettre à des activités culturelles, on va se mettre à organiser une vie collective, on va manger, donc il va y avoir aussi toute une organisation. On raconte qu'il y avait un cochon à l'usine, cochon qui avait été donné par un département de l'Est pour une utilisation culinaire prochaine. Il y avait des liens avec Rungis. On allait tous les jours à Rungis. Ils allaient tous les jours à Rungis s'alimenter. Donc, il y a là quand même une espèce de mini-vie collective qui était étonnante et qui dure pendant 2 ans jusqu'au clash.
Donc en fait, il y a comme une économie parallèle qui s'installe, et ça, c'est tu le décris dans un chapitre que tu appelles le phalanstère, parce qu'il y a des soirées, des bals et toute une vie à l'intérieur des murs de l'usine.
Oui, tout à fait. Le phalanstère, j'ai trouvé que peut-être que j'ai repris cette formule qui a dû venir à un moment dans les débats, mais je trouve que ça explique assez bien cette espèce d'association de vie collective ouvrière à ce moment très très particulier. Et qui, je crois, va durablement marquer tous ceux qui l'ont vécu. C'est-à-dire, vous pouvez pas vivre pendant 2 ans dans une telle complicité, une telle solidarité, sans plus tard en garder un souvenir, des séquelles, etc. Et je pense que les anciens de la SKF, les anciens de cette occupation-là, j'essaie de donner à la fin du livre la liste au maximum, mais il y a encore des noms qui m'ont échappé. Ces anciens-là ont été durablement marqués. Peut-être que pour un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, ça n'a pas été simple de revenir dans une vie normale, entre guillemets, quoi, avec les contraintes, etc., etc. Ça a été un moment assez fabuleux et qui était en permanence soutenu par la ville. C'est-à-dire, les gens venaient tous les week-ends, les gens le soir se promenaient autour de l'usine et puis racontaient, etc., etc. C'était pas quelque chose d'isolé, c'était vraiment une affaire collective, quoi.
Et alors, donc, plus précisément, en fait, ils ont bloqué la Seine au niveau paralanglais à Vitry. Carrément, dans le livre, on voit aussi passer un bateau-mouche plus tard en 84 avec 1500 personnes dedans et tout un tas de banderoles. Alors moi, je veux bien lire, parce qu'en fait, il y a une grosse adhésion de la population d'Ivry. Et alors, tu cites aussi des choses qu'avaient pu déclarer des membres du clergé. Et là, je vais le lire parce que ça nous paraît un peu étonnant. Donc, je cite « Personne ne peut rester spectateur. Vivre en société comme en famille demande qu'on s'informe, qu'on réfléchisse, qu'on agisse, qu'on apprenne la solidarité. » Et donc, il y a un évêque auxiliaire, Jean Raymond, il y a un prêtre ouvrier aussi là-bas, Jacques Pelletier, et ils écrivent « À l'heure où certains spéculent sur les difficultés syndicales, les femmes et les hommes de SKF Ivry nous donnent l'exemple d'une lutte courageuse et digne. L'espoir d'un monde moins injuste est construit sur d'autres valeurs que le seul profit être entre leurs mains, Quelles que soient nos raisons d'être et d'agir, la solidarité, pour eux comme pour nous, n'a pas de prix. Oui. Fin de citation. Alors, on ne s'attendait pas, enfin moi je ne m'attendais pas, à trouver ça de la part du clergé. Mais à l'époque, il y avait des prêtres ouvriers, quoi.
Absolument, il y avait des prêtres ouvriers, et il y avait un prêtre ouvrier qui jouait un rôle important dans l'organisation syndicale, dans l'organisation des vacances, notamment des enfants, et qui va jouer un rôle important. Mais j'ajoute une chose, j'aurais dû le dire plus tôt, pardon, c'est une entreprise d'ouvrières. C'est-à-dire que c'est vrai que les militants les plus connus, Jacques Thore, Patrick Ouanard, sont des garçons, mais c'était une usine composée à 80% de femmes. Et donc, c'est aussi une initiative tout à fait fabuleuse de ce point de vue, cette force de leur intervention, le rôle de ces femmes. C'est symptomatique qu'une des images qui est reproduite sur un mur d'Ivry, ce soit trois femmes de la SKF. Voilà, que tu nous montres une photo. C'est trois femmes de la SKF qui, à un moment d'une manifestation, tiennent une banderole. Elles incarnent tout à fait cette force de la présence féminine. Et dans les témoignages que j'ai pu recueillir ces derniers mois, j'ai eu la chance là de rencontrer une demi-douzaine de ces femmes qui ont à ce moment-là connu une expérience formidable, quoi.
Donc en fait, il y a une fresque murale à Ivry, fait par Vinci Vince, et donc il reprend une des très très nombreuses photos qui nous restent de ces événements. Et donc effectivement, toi tu as retrouvé beaucoup de personnes, et on a un témoignage d'une femme qui s'appelle Jacqueline Pinsaben, qui a commencé à 13 ans et demi, c'est-à-dire dès après le certificat d'études, quoi.
Oui, tout à fait.
Qui explique qu'elle arrive dans une famille. Il y avait une mentalité un peu particulière, et un long témoignage sur la condition des femmes dans cette usine.
Oui. Oui, Jacqueline est intervenue à plusieurs reprises. Elle est, je crois aussi, elle participe à un petit film que la mairie a réalisé sur l'histoire de la ville, et on la voit témoigner. Et il faut savoir que c'était une usine à la fois où les avancées sociales étaient importantes et en même temps où les conditions parfois étaient tout à fait lamentables. Par exemple, c'était une usine où travaillaient dans des ateliers très chauffés plusieurs centaines de femmes qui pouvaient souvent avoir problème de règles, etc. Et on dépendait là de conditions matérielles lamentables. Il y avait une ou deux toilettes, et puis pour arriver aux toilettes, il fallait passer par un petit chef qui vous donnait la clé des toilettes, et puis qui donc contrôlait qui avait des règles, qui n'en avait pas. Enfin, vous voyez, ce genre de questions qui a aussi suscité une indignation très forte parmi la population ouvrière. Donc, il faut dire aussi qu'il y a eu parmi ces militantes l'idée que, souvent c'est les mecs qui prenaient le premier plan dans la bataille, etc., comme quoi hein, tout change et rien ne change, et que les problèmes sont éternels. Mais bon, voilà, c'était aussi une belle lutte de femmes que cette lutte de la SKF.
Alors, avant d'aborder des épisodes un peu plus violents, on va passer une petite musique. Moi, j'ai trouvé un morceau punk de 1984. Alors, avant les épisodes violents, c'est Karim Cassel qui était passé en mars faire un gala. Oui. Il y aura d'autres artistes qui vont venir. Nous, on va s'écouter ce petit morceau de punk de l'époque. On écoute ça. We'll be right back. bien. Donc je me suis un petit peu trompé de morceau, donc comme ça valait quand même le coup, je vais repasser mon vinyle du bon côté. Voilà, c'était le groupe Infanterie Sauvage en 1984. Donc là, on aborde un chapitre qui s'appelle La Matraque. Parce qu'en fait, le 28 mai 85, la police entre dans l'usine à 5h du matin. La mairie fait sonner la sirène, l'église fait sonner ses cloches. Et là, c'est très violent.
Voilà. Alors là, nous arrivons dans une nouvelle étape qui restera marquée, évidemment, durablement dans l'histoire d'Ivry. Encore aujourd'hui, je croise des gens qui se souviennent de la sirène de la mairie et des cloches à 6h du matin. Et tout de suite, on comprend, la population comprend que la police est intervenue le week-end de la Pentecôte. Bon, il y avait peut-être un peu moins d'ouvriers qui occupaient cette nuit-là, donc ils ont la police investi les lieux et tout de suite énorme émotion, organisation spontanée de manifestations, rassemblement autour de l'usine, place Gambetta, noir de monde, et pendant on va dire une semaine il y aura un climat de quasiment d'insurrection. On ne supporte pas de voir son usine, cette usine là occupée. Donc plusieurs jours de défilés de femmes qui vont distribuer de manière un peu ironique des fleurs aux policiers, défiler, des gens de la SNCF poussent des wagons sur la place Gambetta pour couper la circulation. Le conseil municipal décide une grosse réunion publique début juin. En fait, c'était un leurre, comme on dit aujourd'hui, histoire d'attirer l'attention de la police sur le conseil municipal et d'oublier le reste, c'est-à-dire que cette réunion du conseil municipal donne l'impression qu'on est dans une protestation classique, alors que le même soir, on réunit 4 à 500 militants, que ce soit des ouvriers de la SKF, des ouvriers du Libre, des ouvriers d'autres villes voisines, et ils ont la consigne d'être dans tel tel endroit à 4 heures du matin, le lendemain, venez simplement avec un foulard. Donc la consigne était limitée. Et effectivement, le groupe se retrouve à 400. Ils vont utiliser un véhicule municipal. Ils avaient fait le tour de l'usine et observé un mur de parpaing qui n'était pas très solide. La voiture, la camionnette casse ce mur et plusieurs centaines de manifestants se précipitent à 5 heures du matin dans l'usine. Ils sont divisés en deux groupes. Le groupe, on va dire, des mammouths, c'est-à-dire ceux qui ont une carrure un peu imposante et qui vont affronter directement les policiers qui dormaient là, qui souvent sont en pyjama. Alors il y aura même des questions saugrenues du genre, est-ce qu'on fait des prisonniers? Et l'autre groupe, plutôt des jeunes nerveux, monte dans les étages et occupe les terrasses de plusieurs ateliers. Et là, fort de toute la munition de l'entreprise, roulement à billes, tire-fonds, etc., ils vont affronter du troisième étage la police. Et nous allons avoir pendant 6 heures, jusqu'à midi, un affrontement extrêmement violent. Là, le ministère de l'Intérieur va faire venir plusieurs milliers de policiers. Il va y avoir des hélicoptères qui vont être mobilisés, il va y avoir, etc., jusqu'à la décision, aux environs de midi, de monter dans les étages de la police. Et là, j'ai rencontré beaucoup d'amis qui étaient là à ce moment-là sur cette terrasse. Et franchement, lorsqu'ils voient les policiers qui ont été, c'est vrai, sous le feu d'affrontements pendant toute une matinée, qui étaient très excités, ils se demandent si les flics vont pas les faire passer par-dessus bord. Il y a un moment d'angoisse. On m'a dit que comme tous les médias étaient venus autour de l'usine, évidemment, cette présence des médias va dissuader probablement des gestes trop radicaux. Par contre, on va imposer à tous ces gens qui ont été plaqués au sol, etc., de redescendre dans un escalier, un colimaçon. Et chaque marche était de part et d'autre occupée par un CRS. Et à chaque marche, les gens, les 300 qui étaient sur la terrasse, qui redescendent, reçoivent donc un sérieux coup de matraque sur 3 étages. Donc certains arrivent en bas dans des états assez durables. Donc un moment incroyable, hein, un moment...
Parce que en fait, il y avait les mammouths, mais il y avait aussi les gazelles. Ça, c'est ceux qui avaient eu pour mission de monter au-dessus de la terrasse. Là, les CRS ont percé les plafonds pour revenir sur la terrasse. Et donc, tu disais des 1000 personnes. Je crois qu'il y avait 2000 du côté des flics. Il y avait 11 compagnies de CRS, le GIGN, les gardes mobiles, diverses polices, et donc des hélicoptères qui tournent. Et qui eux-mêmes aussi vont balancer des grenades.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et on dit que le ministère de l'Intérieur a expérimenté ce jour-là un certain nombre de nouveaux outils de répression, genre véhicules d'affrontement direct, etc., lors de cette matinée historique d'Ivry. Et dans le même temps, évidemment, la sirène a de nouveau amené des milliers de manifestants qui là occupent déjà Gambetta, et l'idée c'est que ces manifestants de Gambetta descendent jusqu'à l'usine. Vous voyez, c'est on va dire 500 mètres de distance pour libérer l'usine en quelque sorte. C'était l'idée. Bon, mais les policiers vont établir un barrage extrêmement violent entre l'usine et la place. N'empêche, le climat est lancé, toute la presse va en parler et les manifs vont se répéter pendant toute la journée, en vérité.
En fait, il y avait la presse sur place et aussi une équipe de télévision. Et effectivement, heureusement qu'ils étaient là, puisqu'il y en a vraiment qui rêvaient de balancer du toit des gens. Il n'y a pas eu que du matraquage, il y a eu des tortures, quoi, en fait. Il y avait des trucs assez incroyables qui se sont passés. Et il y a des témoignages de différentes personnes de ça dans ton livre.
Oui, tout à fait. Donc, ils vont être conduits massivement dans les commissariats de toute la région, c'est-à-dire à Ivry, Vitry, je ne sais pas, mais Charenton, Maisons-Alfort, Alfortville. Manifestement, il va y avoir une bataille politique, c'est-à-dire que d'un côté, le gouvernement décide de taper très fort, on le voit, milliers de flics, etc. Et d'un autre côté, il doit y avoir quelque part la peur que cette bataille donne des idées un peu partout. Donc, on va garder ces gens en tôle la journée et ils seront libérés dans la nuit le lendemain. Et il n'y aura pas de poursuite judiciaire, contrairement à la volonté de certains flics qui vont commencer dans les hôpitaux, là où étaient arrivés certains blessés, à chercher les noms, etc. etc. Manifestement, le pouvoir a peur et il se dit... On tape un grand coup et on arrête parce que c'est trop dangereux. Il faut se souvenir que nous sommes en 85, que l'ambiance dans le pays est quand même un peu improbable. Les gens sont tellement déçus par la nouvelle orientation pro-libérale prise par le gouvernement Fabius. Et donc, il n'y a pas intérêt non plus à entretenir cette agitation. D'où, à la fois, répression féroce un moment, et puis on ne fait pas de poursuite.
Donc on a évité le pire. Et donc à l'époque, tu m'avais raconté un truc, parce que toi, tu n'étais pas là. Tu as un peu regretté, tu étais à Moscou, et vu de là-bas, il y a des gens qui voyaient les choses un peu différemment ou qui avaient envie de donner des conseils.
Oui, le hasard a voulu que... Je travaille comme correspondant de l'Humanité à Moscou et notamment au moment de cet événement-là. Et je me souviens très bien avoir suivi avec des Ivriens et avec des Soviétiques à la télévision soviétique les reportages où on voyait évidemment, les Soviétiques étaient très heureux de montrer qu'en France ils étaient à la veille de la révolution et en même temps il y avait des débats entre Soviétiques sur le thème, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire la révolution, etc. enfin en 85 à Moscou, il n'était pas particulièrement apte à donner des leçons de révolution, mais bon, voilà le niveau de débat et la manière dont ces événements étaient vus là-bas.
Alors, il y a un truc aussi, c'est qu'à Ivry, on a découvert aussi que SKF fichait ses salariés.
Oui, tout à fait. Oui, j'aurais dû le noter. Lorsqu'il y a l'occupation, il va y avoir l'occupation des bureaux, parce qu'il faut s'imaginer que cette usine était une administration considérable en place, en bureaux, en structure, et donc il y avait pas mal de coffres forts que les ouvriers vont finir par faire ouvrir, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un filage, un pistage de la vie privée des ouvriers, et que pour être embauché, eh bien il fallait la direction du personnel utilisait des services soit de flics, soit de policiers, soit de services privés où on s'inquiétait des orientations politiques, des fréquentations sexuelles, des opinions politiques des gens. Et pendant toutes ces années, en tous les cas, on va dire la dizaine d'années qui précèdent les événements, il y a des fichiers considérables avec les noms, avec les qualités, avec celle-ci, elle fait le trottoir, celui-là, il fréquente des Nord-Africains, enfin des ce genre d'horreur. Ces dossiers vont être l'objet évidemment d'un mini-scandale. On va interroger Badinter, qui est ministre de la Justice à l'époque, mais bon, ça va écraser, c'est-à-dire que à l'arrivée, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, il y aura un lampiste qui va être condamné à une peine insignifiante et l'affaire va être... Alors qu'on se gargarisait beaucoup dans ces années-là, ces années Mitterrand, sur liberté, démocratie et tutti quanti, voilà une surveillance de masse des ouvriers qui est passée à l'as, quoi.
Très bien, je propose une autre petite pause musicale avant qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé après. Donc on va s'écouter un petit morceau de ska, le titre c'est Le Juge.
Non, monsieur le juge, non, je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non, monsieur le juge. Non, je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non, monsieur le juge, hey, non, je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non, monsieur le juge, non, non, je n'ai pas d'excuses, je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Le système abuse et c'est inacceptable. Il refuse à certains ce qui est même l'indispensable. Maintient tout qui augmente et que les prix grimpent en flèche. Ils t'ont mis en attente et toi t'es toujours dans la dèche. Pendant ce temps-là, on s'ennuie pas chez les chefs de l'État. Déroule tapis rouge pour le premier ministre chinois. Président est accueillant, mais est-ce qu'on dépend de ses francs? Il dépense en compter, mais il sait compter pour les Français. Alors, non, monsieur le juge, hey, non, je n'ai pas d'excuses. Mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non, monsieur le juge, non, non, je n'ai pas d'excuses. Je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Et une bouffée de ton air, non, ça tu n'y as pas droit. T'as mis un serial proverbe, man, si tu ne sais pas quoi faire. Y'a bien le temps pour la guerre, quand les troquets sont ouverts. Toutes questions à couvert, les pions veulent y voir plus clair. Puis on les laisse faire, et là c'est le retour en arrière. Moi je fais le tour par derrière, s'il y a quelqu'un tu cries à terre. T'y'a des gains, tu reviens, on ne va pas foutre en l'air. L'opération est claire, opération coup de tonnerre. Une éradication à la façon militaire. Il me faut un portable. Un cum redoutable, un pro, un expert qui s'y connaît en la matière. Il est chaud comme une braise, le sang froid comme une cèse. A changer au rapport, pour une mission corps à corps. Alors, non, monsieur le juge, hey, non, je n'ai pas d'excuses. Mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non, monsieur le juge, bon, non, je n'ai pas d'excuses. Je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse.
Alors c'était Whitty Screw. Donc on parlait de la surveillance chez SKF. Alors en fait, plus récemment, et toujours dans une entreprise suédoise, IKEA, on a vu qu'un procès, ils ont été condamnés à 1 million d'euros parce que effectivement, c'est pareil, il y avait des officines qui fichait les employés d'IKEA. Et une officine avec d'anciens policiers, exactement comme à l'époque d'SKF, et qui rémunérait des policiers en activité pour récupérer des fichiers, des plaques minéralogiques, tout un tas de trucs, et faire des filatures comme ils ont fait chez SKF. Donc on parlait de la Suède, hein, cette jolie social-démocratie. Bon, en fait, il n'y a pas beaucoup de changements. Et les entreprises faisaient bien ce qu'ils voulaient. On découvre à un moment chez SKF un stockage illégal de produits dangereux. Et donc, on avait commencé à en parler. En fait, l'histoire de SKF, c'est aussi un peu l'histoire de la gauche à l'époque.
Tout à fait. Tout à fait. C'est complètement... C'est une histoire en accéléré de la gauche de l'époque, puisque la gauche arrive en 81, elle a des promesses de changement, de progrès social. On va dire que c'est en gros ce qui se passe de 81 à 82, et puis à partir de 83, virage, changement de figure aussi, un homme comme Mauroy remplacé par quelqu'un comme Fabius. Or, c'est précisément Fabius qui va gérer, Fabius qui était ministre de l'Industrie dans un premier temps, qui va gérer le dossier SKF en permanence. Et on voit bien que son discours est un discours à double fonction. D'un côté, entendre ce qui se dit à Ivry, les colères, etc. Donc faire semblant d'eux. Et dans le fond, reprendre exactement l'argumentaire de liquidation de l'entreprise et de la désindustrialisation, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, en fait. Et donc, il va y avoir, lui, son homme de main s'appellera Gallois à l'époque, et il va suivre aussi beaucoup ce dossier. Ce sont des gens qu'on va retrouver ensuite dans tout l'appareil social-démocrate pendant 20 ans, et passant de poste en poste, alors qu'ils ont quand même porté un coup mortel à l'industrie d'Île-de-France. Ça c'est clair, hein. Donc le hasard a voulu que en 84, à l'été 84, il y a les deuxièmes élections européennes. Les premières avaient eu lieu en 1979. Eh bien, comme par hasard, si je puis dire, la gauche à ces élections-là passe, on va dire, de 40 à 30%. Le PC passe de 20 à 10% et le RN, alors plus exactement le FN, passe de 0 à 10%. C'est-à-dire que c'est aussi le moment où l'extrême droite, surfant sur le mécontentement mitterrandien, sur les déceptions, etc., etc., l'extrême droite commence à cette ascension dont nous sommes encore les témoins en 2025. Et là, il y a là un processus qui est enclenché et qui n'en finira pas. Et extrême droite qui est manifestement, dans ces années-là, 84, ouvertement encouragé par le système mitterrandien. Et c'est Mitterrand qui demande à la télévision publique que Le Pen puisse participer aux grandes émissions publiques. Donc on lui prépare, on lui fait son lit, on se dit, bon, les gens vont être déçus, ben, tant qu'à faire qu'ils aillent à l'extrême droite, on saura comment, on pense savoir comment les maîtriser. Donc il se met aussi en place une espèce de machine explosive qui nous pète entre les doigts encore aujourd'hui, quoi, finalement.
Et tu cites une date précise dans ton livre, tu parles du 13 février 1984, date à laquelle donc Le Pen passe à la télé sur grâce à l'insistance de Mitterrand, en fait.
Oui, absolument. Absolument, il y a des dates précises. Et dans ce créneau, qui est un créneau très court, on va dire le printemps 1984, il y a une espèce d'avalanche de propagande sur le thème « c'est la crise, on n'y peut rien ». Et il y aura même une émission à la télévision parrainée par Yves Montand, qu'est-ce qu'il allait foutre là-dedans, Yves Montand, sur le thème « Vive la crise, vive la crise ». Donc, oui, on va souffrir, mais bon, c'est comme ça, et puis tout le monde souffre, etc. Donc, il y a eu tout un travail d'accompagnement pour désespérer les gens, pour leur faire baisser les bras. Ce qui fait que, voilà, SKF, quand ils rentrent en action en 83, ils ont peut-être encore l'espoir que la gauche est derrière eux, et le PC est avec eux, ça c'est vrai, mais quand même le gouvernement, on peut espérer que, et en 85, lors de la fin du mouvement, il y a un changement assez radical et d'orientation politique et de compréhension de la part des gens sur la politique et de désespoir. Donc c'est aussi malheureusement un résumé de cette histoire de la gauche, oui.
Oui, c'est une époque où même la gauche, en fait, nous vante la nécessité de l'économie de marché. Oui. C'est un petit peu ça. Et dans ton livre, tu dis qu'à l'époque, en Angleterre, c'était un peu la même chose. Donc, il n'y a pas d'alternative, disait Thatcher, there is no alternative, et qui a un acronyme, c'est TINA. Oui. Donc, toujours un peu le même discours.
C'est ça. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Simplement, ce que je voudrais dire encore, c'est que on imagine toujours que derrière cette entreprise, il y a les gros bourgeois suédois qui s'en mettent plein les fouilles, ce qui est vrai. Mais il y a aussi les gros bourgeois français qui s'en mettent plein les fouilles. Par exemple, il devait y avoir, à l'été 83, il devait y avoir une remise des bénéfices dans un grand hôtel de la Défense. Et puis, les salariés la prennent et se mobilise, et puis finalement les organisateurs se disent ça va être le bazar, on laisse tomber. Par contre, ça a permis d'apprendre qui étaient ces gens. Donc on retrouve dans les actionnaires français de la SKF qui fait ce qu'elle fait les familles Peugeot, les familles Panhard, les familles d'un grand dirigeant du RPR de l'époque, et puis également cet ancien premier ministre, tu vas m'aider là,
Raymond Barre.
Oui, Raymond Barre, évidemment. Raymond Barre qui était le donneur de leçons de austérité, et qui en même temps, on l'a appris après sa mort, qu'il accumulait des forces fortune en Suisse, enfin, il était pété de thunes et il nous faisait la leçon sur rigueur et austérité. Donc c'était ces gens-là qui touchaient le fric des bénéfices de la SKF, c'est tout à fait intéressant, quoi.
Alors tu as cité deux, trois fois dans ton propre livre, je rappelle le titre, donc « La légende SKF », les travaux de l'historien Alain Berthaud, qui a fait un livre qui s'appelle « Ceux du Val-de-Marne, 25 années de lutte sociale dans un département ».
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'était dans la bibliographie, il faut dire qu'il y a une brochure très intéressante des syndicats qui résume assez bien les événements. Il y a ce livre de Berthaud sur le Val-de-Marne, et puis il y a la bonne tenue des archives, notamment des archives syndicales qui sont conservées aux archives municipales d'Ivry, et où vous pouvez accéder à une masse énorme de documents, et notamment une masse énorme de photos, parce que à l'époque, comme quoi cette manie de se prendre en photo n'est pas qu'un phénomène d'aujourd'hui, on prenait en photo tout le temps, tout événement, et la grève a suscité plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de petites photos. On voit donc séquencer tous ces moments de l'occupation.
Très bien. Vous avez des questions à poser, Simon ?
Déjà, à l'époque, par exemple, lors de l'occupation de Lippe, il y avait la volonté chez les ouvriers de l'autogestion. Par la suite, on a vu beaucoup des revendications, de créer des SCOP. Et là, est-ce qu'il y avait des revendications dans ce sens-là, ou il y avait juste la volonté d'avoir un repreneur, ou quelles étaient les revendications vraiment des ouvriers qui occupaient, des ouvrières ?
C'était surtout des préoccupations sur l'industrialisation, la sauvegarde de l'industrie, ce qui fait qu'ils vont multiplier des plans de propositions de développement de la du roulement à billes en France. Ils vont multiplier les colloques avec d'autres industries françaises pour voir s'il n'y a pas moyen d'acheter plus en France qu'à l'étranger. Et puis ensuite, ils vont être sensibles à toute proposition de relance de l'industrie. Par exemple, ils vont faire une délégation à la fin 85, donc à quelques semaines après ces événements tragiques dont on vient de parler, en Chine. Il y a eu un intermédiaire, mais qui en vérité était un type louche, qui leur dit « les Chinois sont intéressés par vos usines, votre usine ». Et donc il va y avoir une délégation de syndicalistes qui va aller en Chine et qui en même temps ne sont pas les propriétaires de l'usine. Donc ça ne pouvait pas aboutir, ça n'aboutira pas. Mais ça montre que leur souci... J'entends votre question, mais leur souci portait essentiellement sur la sauvegarde de l'industrie et de tout moyen possible de relance de l'industrie.
Tu as dit qu'il y avait beaucoup de femmes en fait dans cette usine, et par rapport à ça, j'avais deux questions. Premièrement, est-ce qu'il y a eu une sorte de division des tâches au moment de la lutte ? Et deuxièmement, tu as dit aussi que finalement, dans cette lutte, c'était quand même un peu les hommes qui étaient leaders, ou en tout cas qui prenaient la parole, etc. Est-ce qu'à un moment, il y a eu une volonté des femmes, finalement, d'avoir une place plus importante dans l'organisation de cette lutte ?
Bonne question. Bonne question, parce que effectivement, c'était encore une fois une usine majoritairement, on va dire aux trois quarts, une usine d'ouvrières. Donc, partage des tâches. Oui, à certains moments, par exemple, lors de la réoccupation de l'usine, bon, on envoie les gros bras au premier poste et les pauvres vont se faire salement matraquer. Mais ceci dit, pendant les trois ans, hommes-femmes, on va dire, à égalité, participent à toutes les activités. Ce qui est vrai en même temps, c'est que quelle que soit la bonne volonté des hommes, et je connais notamment et Jacques et Patrick, etc., il y a une tendance à ce que, lors de la négociation, lors de la représentation, eh bien, on va s'adresser à l'homme plutôt qu'à la femme. J'ai le souvenir d'un débat avec Jacqueline Pensaben, où elle dit on a eu des hommes magnifiques, mais parfois ils nous piquaient un peu la place. Oui, même là, il faut le dire.
Et je me demandais aussi, du coup, finalement, on peut dire que leur lutte se termine plutôt par un échec. Et du coup, quel impact ça a eu sur le reste de l'industrie à Ivry ? Est-ce qu'après ça, malgré tout, il y aura d'autres luttes lors d'autres tentatives d'usine ? Ou au contraire, est-ce que ça va avoir tendance à sécher peut-être les luttes locales ?
Globalement, les luttes entre les années Giscard d'Estaing et les années Mitterrand vont chuter. C'est-à-dire qu'on se battait beaucoup plus sous Giscard d'Estaing et contre l'équipe à Giscard d'Estaing que sous Mitterrand et contre l'équipe à Mitterrand. Donc ça, c'est malheureusement la donnée de fond que vient un peu contredire la lutte SKF. Alors, est-ce que SKF, c'est un échec, c'est un succès ? Bon, c'est pas un succès dans la mesure où l'usine a disparu, mais il y a eu une telle affirmation d'une dignité ouvrière pendant si longtemps et avec une si forte solidarité de l'entourage que c'est resté dans les mémoires, et ça, c'est quand même une petite, au moins une victoire morale, une victoire idéologique. Bon, voilà ce qu'on peut dire sans... Voilà.
Alors, on va... Je voulais dire une petite chose en cette fin d'émission. C'est que tu as, cette année, Gérard, tu as animé des ateliers d'écriture de nouvelles pour enfants. C'était une belle réussite dans le cadre du festival du roman noir et social qui a lieu donc chaque premier week-end du mois de décembre dans les locaux de la mairie. Moi, j'ai assisté à une restitution dans une des 5 écoles. Moi, c'était l'école Jules Verne. Donc il faut expliquer qu'il y a 12 classes et 200 ou 220 gamins qui ont suivi ces cours. Je pense que tu as dû passer de bons moments.
On change de sujet, ouais. Mais oui, c'était extraordinaire. C'était donc des ateliers d'écriture avec des enfants de 10 ans, des enfants de milieux extrêmement populaires, des enfants dont on pourrait dire « oh, la lecture, l'écriture, etc. » Or, nous avons ensemble imaginé des histoires, écrit des histoires, écouté la lecture de ces histoires, et tout ça dans une tranquillité et une sérénité formidables, avec la complicité des profs qui ont été très très bien, très très complices, voilà. Et puis avec des enfants, moi par exemple, je disais au début de chaque séance qu'on allait faire un jeu littéraire. Alors ils me regardaient comme un martien. Je dis oui, bah, par exemple, vous allez m'écrire maintenant une carte postale à vos parents sans utiliser la lettre E. Allez, vous avez un quart d'heure. Et au début, ils n'y croient pas et au bout de 5 minutes, ils comprennent que les mots ont une souplesse, ont une possibilité d'utilisation et ils jouent à fond la carte. C'était vraiment un régal absolu. Et à l'arrivée, nous avons sorti un livre en 3 séquences puisqu'il y avait 3 classes et la restitution avec une centaine de parents, d'élèves, c'était quelque chose, hein. C'était très émouvant, c'était très réussi.
Et moi je pensais que les gamins, je sais qu'ils ne croyaient pas qu'un livre serait édité, je pensais que ça les toucherait, mais la restitution, quand tu les vois, là tu comprends aussi que ça a beaucoup, beaucoup d'impact sur ces gamins, c'était assez magnifique.
Oui. Et certains avaient appris par cœur le texte. Donc, normalement, il était convenu que les enfants viendraient devant les parents et liraient un extrait du texte. Mais beaucoup de ces enfants, avaient intégré leur propre histoire et ils la récitaient pour grand moment, quoi.
Et je crois que tu as un projet sur Olga Bansik.
Oui. Je suis en train de... Je commence la biographie de cette résistante qui était la seule femme du groupe de Manouchian des 23 qui ont été panthéonisés. Et je tombe sur des archives tout à fait intéressantes. Donc oui, ça sera un livre pour l'été 2026.
Très bien, d'accord. Eh bien, merci beaucoup à vous trois.
Merci à toi.
Merci.
Et on termine sur un titre de Bernard Lavilliers.
Yes. Très bien.
Les barbares habitaient dans les angles tranchants des cités exilées au large du Basnes. Ils rivaient leurs blousons d'étranges firmaments où luisaient la folie, la mort et la jeunesse. La nuit, le fourneau mijotait ses dollars. La fumée ruisselait sur nos casques rouillés. Dans le vestiaire cradingue, 5 minutes volées. À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone, vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays dociles.
j'avais des tropiques tropicaux. Plein d'eau à 30 degrés, plein de forêts sanglantes. Il rêvait de corail, d'amour, de sable chaud. Épinal leur fourguait ses images en partance. Le fils du patron venait nous visiter. Au sortir du nightclub avec de jolies femmes, il nous regardait faire, essayait d'estimer la montée de la courbe, la chaleur de la flamme. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays dociles. Bourgeois adolescents aux mythes ouvriers, militants acharnés de ce rêve qui bouge, qui serait un beau jour de gauche bien rangé. Tricolore et tranquille, la zone c'était rouge. La noirceur des blousons nous faisait des étés sombres comme les fleurs de nos arbres acryliques. Déroulions nos chaînes, essayant de décrocher la montée de l'amour, de la paix et de la musique. Quand le car avalait sa ration de 6 heures, de mains brûlées de silicose et de gros rouge, nous rentrions vidés dans nos cuisines seules. Un sourire, un café, la douce, rien ne bouge. La radio tapinait à l'étage inférieur. On dormait dans l'enzyme et dans le carrefour. Puis nos têtes plongeaient vers des mondes meilleurs. Nos mamans affairées voyaient baisser le jour. Oh mon amour, emporte-moi. Emporte-moi loin de la zone. Vers des pays chagrins. Vers des pays faciles, vers des pays dociles. Les barbares habitaient.
Chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les bêtes. moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant